Et j'ai envie qu'on regarde à la Bible et qu'on regarde à la big picture de la Bible. Hein, on va regarder à la fin. C'est l'apôtre Jean qui a une vision imagée de la fin des temps. Et regardez ce qu'il voit, et vous remarquerez qu'on l'a chanté ce matin, dans Apocalypse 19. « Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Amen. « Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. » Ok. Donc apparemment, il est question de noces dans la parole de Dieu. Il est question de noces à la fin de l'histoire, cette histoire terrestre. Hein, Dieu nous appelle à des noces, la noce d'un agneau avec sa fiancée. Et c'est intéressant de voir que la Bible, elle compare la relation entre Dieu et l'homme à un mariage au travers de Jésus. Elle compare la relation entre Dieu et l'homme à des noces entre l'époux et son épouse et sa fiancée. Alors on va aller un petit peu plus loin, ce Paul a dit la même chose dans Éphésiens. « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable, hein, habillé d'un lin pur éclatant. Voici comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Je crois qu'il n'y a pas d'équivoque dans la réponse. Est-ce que le mariage, c'est une institution humaine ? Est-ce que le mariage, c'est une création de l'Église ? Non. On le voit, le mariage, c'est quelque chose qui est profondément biblique, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la nature même de Dieu. Quand on a été créé pour être en relation avec Dieu et en relation les uns avec les autres. C'est l'objectif de notre création, c'est que Dieu relationne avec nous et que nous relationnons avec Dieu. Quand par notre faute, cette relation, elle a été perdue, quand le péché est entré dans le cœur de l'homme, cette relation a été perdue. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a envoyé son Fils, il a envoyé Jésus mourir sur la croix, être séparé du Père comme nous étions séparés du Père, puis ressuscité, monter au ciel et nous permettre de retrouver en lui cette relation avec Dieu. Et dans la nature même de Dieu, il y a l'engagement. Dieu s'est engagé à envoyer Jésus pour venir nous sauver alors que nous avions perdu toute relation. Il s'est engagé jusqu'au bout à défendre cette valeur de la relation qu'il avait créée en Éden avec l'homme. Il s'est engagé à aller jusqu'au bout pour sauver cette relation-là. Et il y est arrivé, il y est parvenu, c'est ça qui est génial. Alors ça nous enseigne une chose, que le mariage, il a comme référence rien de moins que cette alliance-là. La Bible, elle ne fait pas référence au mariage dans un livre de règles où le mari doit épouser sa femme. La Bible, elle fait référence au mariage dans l'engagement que Dieu a eu en Jésus-Christ envers l'homme, en présentant Jésus comme un époux parfait qui a donné sa vie pour sa femme, pour restaurer une relation qui était perdue. Voilà la référence du mariage. Alors ça nous donne le sens, hein, de notre mariage. C'est-à-dire que le mariage, ce n'est pas une institution. Le mariage, c'est un engagement réciproque l'un envers l'autre. Et cette notion d'engagement, elle prend son sens. Mais ça nous enseigne aussi sur ce qu'on doit attendre de notre mariage. Notre mariage actuel ou notre mariage futur, je m'adresse aux jeunes qui n'ont pas encore trouvé, ou aux autres. Élevons notre niveau d'attente dans nos mariages, dans nos couples. C'est intéressant de voir que le plan du salut de l'humanité qui traverse l'histoire, c'est un mariage. Ce plan du salut est un mariage. Et dans la Bible, vous avez un livre entier qui est consacré à l'amour entre un homme et une femme, le Cantique des Cantiques. Alors on peut y voir effectivement une allégorie entre Jésus et son épouse, Jésus et l'Église, mais avant tout, c'est une histoire d'amour. Un livre entier de la parole de Dieu qui est dédié à démontrer toute la passion, tout l'engagement, tout le respect, tout le plaisir qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Et toutes ces choses-là, ça nous dit une chose, c'est que le couple, c'est pas rien. Le couple, c'est quelque chose d'important. Et le couple, il fait pleinement partie du plan de Dieu pour nos vies. Et la question du couple, elle ne se pose pas le jour où je rencontre quelqu'un. Elle se prépare en avance. Et la question du couple, je pense que vous serez d'accord avec moi, elle n'est pas réglée le jour du mariage non plus. C'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se bâtit jour après jour. Alors ben, vous l'avez compris, hein, ce matin on va aborder quelques aspects pratiques sur le couple. Comment construire et bâtir un couple qui est solide, un couple heureux. Et vous verrez que c'est intimement lié à l'engagement de Dieu envers nous. Alors j'aimerais dire aussi en préambule à tout ça, qu'on est tous concernés dans cette histoire-là, et j'aimerais que personne ne se sente de côté. Aujourd'hui, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit veuf, qu'on soit divorcé, qu'on soit fiancé, on est tous concernés par ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous en relation les uns avec les autres. Et je vais faire un focus sur le couple ce matin, mais j'aimerais qu'au-delà du couple, on puisse comprendre qu'il est aussi question des relations que nous avons les uns avec les autres. D'accord ? Les relations que nous avons ensemble, au-delà du couple. Le couple est à un niveau d'intimité peut-être encore plus grand, mais dans nos relations, que nous puissions aussi nous inspirer de ce que Dieu nous commande quand il dit « Mais aimez-vous, offrez vos corps en sacrifice les uns pour les autres. » Il emploie exactement les mêmes données. Alors pour démarrer, j'aimerais aussi faire un focus sur les célibats et les célibataires. On a tous des smartphones, on a des ordinateurs avec plein de logiciels qui doivent être régulièrement mis à jour. Faut être à la page, parce que si on n'est pas à la page de la mise à jour, le logiciel devient obsolète et puis les choses ne fonctionnent plus avec. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai souvent eu l'impression qu'on présentait le célibat comme la mise à jour qu'il fallait faire, qu'on présente le célibat comme le Windows XP de moi, qui est en attente de passer en Windows 10 pour avoir toutes les fonctionnalités. Et il y a quelque part cette obligation de dire il va falloir que je passe à la mise à jour suivante. Et le célibat est juste un espace d'attente avant le mariage. Et j'aimerais vraiment aller contre cette idée-là et rappeler ce que dit la Bible par rapport à ça. Dans 1 Corinthiens 7, Paul y dit « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce, l'un le mariage, l'autre le célibat. » Et puis Jésus, il enfonce le clou, parce que sur le même sujet, qu'est-ce qu'il dit ? Il répond aux pharisiens qui lui posent une question piège sur ce sujet-là. Il dit « Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. » C'est celui qui est au-dessus, c'est la même réponse. « Cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don. » Alors il est donc effectivement question d'un don du célibat, il est question d'un don pour le mariage. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que la Bible ne dit pas « vous devez absolument vous marier ». La Bible ne dit pas « vous ne serez pas complet tant que vous n'aurez pas trouvé votre moitié dans la vie ». La Bible ne décrit absolument pas ça. Paul, à l'inverse, présente au travers du célibat une consécration absolument totale à Dieu, alors qu'une personne mariée va devoir jongler entre sa consécration à son épouse et sa consécration à Dieu. Et ce n'est pas présenté comme une mauvaise chose, parce que c'est une réalité que nous devons investir dans nos couples. Mais la personne célibataire aujourd'hui, elle jouit d'un temps qu'un père ou qu'une mère de famille n'a pas. Et en ce sens-là, le célibat est bon. Et le célibat n'est pas une zone d'attente avant le mariage. Pour vous donner un témoignage, je me souviens qu'avec Véronique, avant de se rencontrer, on ne se connaissait pas encore, Et chacun de notre côté, on avait fait cette même démarche vis-à-vis de Dieu, où on en était arrivé au point où on disait, « Ok Seigneur, si je dois être célibataire, je serai célibataire. Et donc pour l'instant, je vais m'occuper de ce que tu me demandes. Je vais m'occuper de ton église, je vais m'occuper de ton royaume et je vais investir tout mon temps là-dessus. » Et donc on a fait ça, l'un et l'autre. Alors moi je l'ai fait plein de fois, plein d'assurance que Dieu allait quand même pourvoir à une épouse super pour moi. Mon épouse l'a faite en pleurant parce qu'elle était persuadée qu'elle serait finalement célibataire. Elle faisait le deuil du mari. Alors, elle n'était pas vieux hein, pourtant. Et quelques mois plus tard, je ne pense pas beaucoup plus, quelques mois plus tard on s'est rencontrés en Angleterre. Et donc finalement la boucle était bouclée. Mais c'était intéressant de voir que alors que notre démarche c'était « Seigneur, tout pour toi », le Seigneur a pourvu à ce moment-là. Et je crois que c'est bon de voir notre temps de célibat, pas comme un temps de punition ou comme un temps d'attente, mais de se projeter dans ce temps-là comme un moment où j'ai du temps pour m'investir. J'ai du temps pour m'investir dans le royaume de Dieu plus que quelqu'un qui est marié. Le mandat missionnaire de l'Église, hein, fait de toutes les nations des disciples, ça c'est réellement le mandat missionnaire de tout chrétien. Et ce « soyez féconds et multipliés » qui est dans la Genèse, ça c'est une bénédiction sur l'homme et la femme. Et il ne faut pas intervertir les deux dans notre réflexion. Notre mandat missionnaire, il n'est pas de nous multiplier sur la terre, il est de faire de toutes les nations des disciples. Et notre bénédiction, elle est que Dieu nous donne de multiplier la vie, d'être fécond. J'aimerais aussi parler de l'âme sœur, cette notion d'âme sœur qui est complètement fausse. Et j'aimerais vraiment le poser ce matin. La notion d'âme sœur, elle est issue d'une théorie ésotérique juive, la Kabbale, qui consisterait à dire qu'au moment où Moïse a reçu les tables de la loi sur le Sinaï, il a aussi reçu une loi secrète de la part de Dieu, et ensuite qui a été transmise de manière orale. Et ça, c'est une théorie qui est complètement fausse, on est d'accord, hein ? Il n'y a pas de loi secrète dans la Bible n'y fait pas référence. Et dans cette Kabbale notamment, il est question de cette notion d'âme sœur, qu'il y a ma moitié parfaite qui est là sur la terre et qui m'attend, et je dois absolument la trouver. Et donc là, je m'adresse à tous les célibataires, non, l'âme sœur n'existe pas. Dieu a prévu, oui, quelqu'un pour vous, mais la notion d'âme sœur n'existe pas. Je ne dois pas trouver la seule et unique personne sur la terre qui puisse me correspondre. Ça met une pression terrible. Ça met une pression terrible. Ça nous oblige à chercher parce qu'on se dit qu'on peut passer à côté et qu'il faut qu'on regarde tout le temps où est-ce qu'elle peut être. Et j'aimerais dénoncer vraiment ça. La notion d'âme sœur n'existe pas. Voilà, donc ça c'était sur le célibat. Je vous donne vraiment des choses très, très pratiques et très techniques hein, ce matin. Et maintenant j'aimerais vous parler d'une image qui va concerner les couples. Et au-delà des couples, qui va concerner nos relations dans l'Église. Quand on prend une voiture et qu'on fait des kilomètres, au bout d'un moment, il faut remplir le réservoir d'essence. On est tous d'accord avec ça ? Mais si je remplis toujours ma voiture d'essence uniquement, il va bien y avoir un moment où je vais avoir un problème parce que j'ai aussi un réservoir d'huile, j'ai aussi un réservoir de liquide de frein, réservoir de liquide de refroidissement, j'ai un réservoir de liquide de direction assistée et j'ai tout un tas d'autres réservoirs dans ma voiture qui fait que si je ne m'en occupe jamais, à un moment donné, mon moteur il va serrer. Et j'ai beau mettre de l'essence dans ma voiture, j'irai pas loin parce que le reste des réservoirs sont vides. Vous comprenez cette image-là ? Donnez une autre image qui est assez marrante qu'on m'avait racontée une fois, c'est les Asiatiques. On dit des Asiatiques qu'ils ont deux estomacs, un pour la nourriture et un pour le riz. Et ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, s'ils n'ont pas mangé de riz, ils ont encore faim. Parce qu'ils ont deux réservoirs à remplir. Et dans nos couples, c'est la même chose, la même chose. Nous avons 5 réservoirs à remplir. Dans nos relations, nous avons 5 réservoirs à couvrir. Un premier réservoir qui est le réservoir émotionnel. Alors, qu'est-ce que c'est le réservoir émotionnel? C'est tout ce qui a trait à nos émotions. Je suis bien, j'aime, j'aime pas, c'est agréable, c'est pas agréable. C'est tout ce que je ressens. Et ce réservoir-là, il a besoin d'être rempli dans mon couple. J'ai besoin d'avoir du plaisir à être avec mon conjoint. J'ai besoin d'avoir du plaisir à être avec l'autre. J'ai besoin d'être rempli dans mes émotions. Et j'ai besoin aussi de remplir les émotions de l'autre. J'ai besoin d'être agréable. J'ai besoin de faire en sorte que l'émotion que mon conjoint ressent soit bonne, soit pleine et nourrisse hein, mon conjoint. Donc ça, c'est le premier réservoir. Réservoir relationnel, émotionnel, pardon. Il y a un deuxième réservoir, c'est le réservoir physique, ça se comprend. La notion du toucher, la notion d'être en contact l'un avec l'autre, la notion de se plaire. Mais au-delà, hein, quand je parlais des relations dans l'Église, il va de soi que ce n'est pas le même niveau d'intimité que dans un couple, les relations auxquelles on est appelé dans l'Église, en tout cas sur ce domaine-là. Mais c'est important, c'est important. Imaginez une église où on ne se touche pas. Imaginez une église où on se salue de loin et où on n'a aucun contact. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il manquerait quelque chose. Imaginez un couple qui ne se touche pas non plus. Il manque quelque chose. Il y a un réservoir physique qui est important à remplir. Et on a enseigné sur ce message-là aux jeunes et on leur disait que bien souvent, dans la recherche de la relation au départ, ça commence par ces deux réservoirs. Au final, c'est elle me plaît et je suis bien avec. J'aime bien lui faire des câlins. Souvent, on résume les choses à ce sujet-là. D'ailleurs, c'est assez classique, la demande des jeunes, c'est « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Parce que ça se limite surtout à ça. « Est-ce que tu veux juste qu'on soit bien ensemble parce qu'on se plaît ?» Hein, c'est un peu ça. Sauf que nos couples sont beaucoup plus larges que ça. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vous amener ce matin, de dire qu'il y a ces cinq domaines et d'élargir les attentes que nous avons par rapport à nos couples. Donc, un réservoir émotionnel, un réservoir physique, un réservoir relationnel également. On parle souvent de communication dans le couple, mais au-delà de la communication, c'est toute cette notion d'être en relation avec et la manière dont je relationne. Comment je communique? Est-ce que je communique régulièrement? Est-ce que je communique peu? Est-ce que je suis dans ma grotte? Est-ce que j'échange? Quand j'échange, est-ce que je suis compris, pas compris? Est-ce que j'écoute? Est-ce que je n'écoute pas? Toute cette notion des relations et de ce qu'on va pouvoir échanger dans ces domaines-là. Le quatrième réservoir à remplir dans nos couples, c'est le réservoir intellectuel. Est-ce que dans mon couple, je partage régulièrement sur des choses et des sujets d'intérêt? Est-ce que mon couple me nourrit et est-ce que je nourris mon épouse des discussions que nous pouvons avoir ensemble sur la société, sur la compréhension de la Bible aussi, la compréhension intellectuelle de ces choses-là, sur l'histoire, sur l'avenir, sur tout un tas de sujets scientifiques? Est-ce que nous partageons et est-ce que nous nous remplissons mutuellement dans nos réservoirs intellectuels? C'est souvent quelque chose qui est laissé de côté dans les couples. Et je nous encourage vraiment à développer aussi ça. Et enfin, le cinquième réservoir dont je voudrais parler ce matin, c'est le réservoir spirituel. Et toute cette intimité et cette dynamique de l'esprit que nous pouvons vivre ensemble. L'Église, ce n'est pas le dimanche matin. L'Église, c'est ce que nous sommes, chacun d'entre nous, dans nos familles. Et ici, nous mettons en commun ça. Nous mettons en commun nos semaines. Nous mettons en commun ce que nous vivons de l'esprit, chacun, dans nos familles, chez nous, avec nos amis. Et on vient, on le met en commun et on fait la fête le dimanche. Mais l'Église ne se résume pas à ce que nous faisons le dimanche matin. Le principal de l'Église, c'est ce que je fais les six autres jours de la semaine. C'est ce que je vis dans ma famille, c'est ce que je vis dans mon couple. Je me prêche à moi-même en premier. Hein, ma chérie? Alors oui, cinq réservoirs. Et pour chacun d'entre nous, nos réservoirs, ils ne sont pas tous de la même taille. Ça, il faut le comprendre. Peut-être que j'ai un énorme réservoir spirituel, et que mon épouse, elle en a un tout petit. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Peut-être que David a un énorme réservoir émotionnel qu'il a tout le temps besoin d'exprimer quelque chose et que Lucie, absolument pas. Non, mais c'est quelque chose de sérieux parce que ces différences de taille de réservoir génèrent des incompréhensions dans nos couples et des incompréhensions dans nos relations, alors que c'est simplement une histoire de taille de réservoir. Parce que moi, j'ai un gros réservoir émotionnel, je m'attends à ce que l'autre ait un gros réservoir émotionnel. Sauf que comme lui, il en a un tout petit, il ne comprend pas que moi, j'ai besoin d'être beaucoup rempli dans le côté émotionnel. Vous comprenez dans nos relations ce que ça peut créer si on a une mauvaise compréhension de la taille du réservoir de l'autre. On peut aussi faire l'impasse hein, sur un réservoir. J'avais fait un parallèle entre les réservoirs et les cinq sens. C'est mémotechnique, si vous voulez, je vais vous le donner. Pour moi, le réservoir émotionnel, c'était le goût. C'était ce qu'on ressent dans notre bouche. Le réservoir physique, c'est forcément le toucher. C'est naturel. Le réservoir relationnel, c'est l'ouïe, parce que ça passe par la communication, ça passe par les échanges. Le réservoir intellectuel, c'est ce que nous voyons, la vue. Et le réservoir spirituel, c'est ce que nous ne voyons pas, mais que nous sentons. Et je disais qu'on peut vivre sans le goût. Imaginez, j'ai pas de goût. Je peux vivre sans le goût, heureusement. Mais en même temps, franchement, on est français. Et ce serait dommage d'avoir aucun plaisir à faire un bon repas et à pas vivre avec ce goût-là. Et de la même manière, à la fois dans mon couple et puis dans les relations qu'on a au niveau de l'Église, je ne voudrais pas me priver d'un de ces réservoirs-là. Je ne voudrais pas me priver d'un de ces domaines-là dans nos relations. Et quand on dit « ayez de bonnes relations entre vous », il est question de tous ces domaines-là. Il n'est pas juste question d'un échange spirituel. Quand on se retrouve, si ma seule base d'échange avec Thomas, c'est le spirituel, il va me manquer plein d'autres choses. Si je n'ai pas d'émotion avec Thomas, si je n'ai pas une communication et une relation avec lui, si on ne se touche pas, si on n'échange pas de temps en temps et qu'on ne débat pas sur certains sujets, il va me manquer des choses. Ma relation sera ô combien plus nourrissante pour lui et pour moi si j'élargis la manière dont je relationne. Donc le fait d'avoir des réservoirs de taille différente nécessite qu'on a besoin de connaître la taille de nos réservoirs. Et je me souviens qu'on avait fait un exercice avec Véronique avant de se marier. Et d'ailleurs, on a dit qu'il fallait qu'on le refasse parce que ça fait quelques années maintenant. On avait été encouragés dans un bouquin à écrire chacun de notre côté nos 10 principales attentes, nos 10 besoins principaux. Et puis sur une deuxième liste, on devait écrire les 10 choses qu'on pensait que notre conjoint attendait, avait besoin en priorité. Et puis ensuite, l'idée était bien sûr de comparer ces listes-là et de réaliser qu'on n'a peut-être pas une connaissance parfaite de ce que l'autre attendait. Mais le fait de faire cet exercice-là, qu'est-ce que ça faisait ? Ben, ça me permettait de repartir avec une liste où je savais quels étaient les besoins de ma future épouse, quels étaient pour elle ses besoins prioritaires, qui n'étaient peut-être pas exactement ceux qu'elle pensait, ce que moi je pensais qu'elle avait. Et inversement, elle est repartie avec sa liste, et elle savait qu'est-ce qui, pour moi, était important dans notre couple. Et je me souviens que les premières années, on y a régulièrement fait référence, et ça nous a aidés dans la compréhension de comment l'autre fonctionne, parce que ce n'est pas naturel de savoir comment l'autre fonctionne. On avait besoin de cette chose-là. Et je crois que ce serait bien qu'on le fasse quelques années plus tard maintenant, parce que nos attentes, elles évoluent, que nos réservoirs, ils grandissent, ils diminuent. Je vous encourage dans vos couples, et je vous encourage dans vos futurs couples, à faire cet exercice-là, ça aide à se comprendre, ça aide à ne pas créer de tension juste sur des questions d'incompréhension. Je me souviens quand j'étais petit, ma maman elle avait acheté un espèce de petit témoin tuteur là, qu'on plantait dans les pots de plantes. Et puis il y avait des espèces de petites boules à l'intérieur et qui se coloraient en fonction de est-ce qu'il y avait besoin d'eau ou est-ce qu'il n'y avait pas besoin d'eau ? Et je me souviens que j'étais captivé par ce truc-là et que j'y passais et que je pense la première semaine, je le regardais à peu près 5 fois par jour pour savoir si notre ficus, il avait ou il n'avait pas besoin d'eau parce que j'attendais que le petit indicateur change de couleur pour dire il y a besoin d'eau. Et le jour où il y a eu besoin d'eau, j'étais tout content de pouvoir dire à maman, « Maman, le ficus, il a besoin d'eau, ça devient coloré. » Voilà, ça, c'est juste pour l'image, mais En préparant ce message, ça m'a encouragé à me dire, mais est-ce que j'ai planté des petits témoins comme ça sur chacun des réservoirs que j'ai ? Est-ce que j'ai planté des témoins comme ça ? Est-ce que je suis en train d'observer ceux qui sont dans les réservoirs de mon épouse ? Est-ce que j'ai ce souci-là de savoir où est-ce qu'elle en est ? Est-ce que j'ai ce souci-là de savoir de quoi elle manque ? Dans quel réservoir il faut que j'arrose ? Est-ce qu'il faut que j'arrose dans l'émotion ? Est-ce qu'il faut que j'arrose dans le physique ? Cette semaine, j'ai préparé un message. Forcément, elle a un réservoir relationnel qui est à vide aujourd'hui. Il va falloir qu'on prenne du temps la semaine prochaine. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Le réservoir relationnel est à sec parce qu'on n'a pas assez passé de temps ensemble cette semaine. Et je lis ça et je le vois. J'ai regardé sur mon témoin qui manquait de l'eau dans ce réservoir et je sais que ce soir et la semaine prochaine, il va falloir qu'on passe du temps ensemble. Et ce sera un plaisir. Bon, je me suis engagé, ma chérie, hein, devant tout le monde. Hein. Alors, vous comprenez ces notions de réservoir qui sont source d'incompréhension. Et quand on comprend qu'on n'est pas fait d'un seul réservoir, qu'on n'est pas juste une personne avec un seul cœur qui se remplit ou qui ne se remplit pas, mais qu'on est une multitude de réservoirs, on comprend beaucoup plus des fois ces sentiments où on n'est pas bien et on ne sait pas pourquoi. Il nous manque quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi. Eh bien, examinons ces cinq domaines dans nos vies. Examinons ces cinq domaines dans ceux avec qui on est. Examinons ces cinq domaines auprès de notre conjoint pour comprendre d'où vient ce qui nous manque et pour qu'on passe pas à côté de ce qu'on pourrait vivre dans nos couples. Alors, on parlait tout à l'heure de la société et des valeurs qui étaient fortement mises à mal aujourd'hui sur la famille, sur le couple, sur la fidélité, toutes ces choses-là. Dans le cadre de ces réservoirs, c'est une réalité que si je ne remplis pas mes réservoirs, je vais devoir de toute façon les remplir avec quelque chose d'autre. Et si mon épouse ne me nourrit pas sur mon réservoir physique, je vais devoir aller remplir mon réservoir ailleurs parce que j'ai un réservoir physique qui a besoin d'être rempli. Et si mon épouse ne me nourrit pas là-dessus, combien de tentations j'ai aujourd'hui sur Internet ? La pornographie, les autres femmes, l'infidélité, c'est tellement facile. Et si mon épouse ne me nourrit pas sur ce domaine-là, si mon réservoir est vide, je vais devoir remplir dans ma vie de quelque chose d'autre. Si je ne remplis pas le réservoir relationnel de mon épouse, elle va le remplir avec d'autres personnes. Elle va le remplir avec ses amis. Elle va remplir sa vie et son agenda de ses copines et de tout ce qu'elle peut faire avec, etc., 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 au détriment du temps qu'on devrait passer dans notre couple. Et c'est le cas pour chacun des réservoirs. Si on ne cherche pas à remplir le réservoir l'un de l'autre, si on ne cherche pas à avoir des relations qui sont pleines dans tous ces domaines que je cite derrière, alors on va devoir forcément le remplir avec autre chose. Hein, c'est ce vide qui est dans le cœur de l'homme, qui a la forme de Dieu, hein, qui fait que chaque homme a une spiritualité. Si on ne la remplit pas avec Dieu, il va la remplir dans autre chose. Mais c'est exactement le même principe. Et la société, elle nous dit pas ça. La société, aujourd'hui, elle nous envoie un message extrêmement fort d'individualisme. Elle nous envoie un message qui dit que moi seul compte. Voilà. Je peux vivre en autonomie. Je peux subvenir à mes propres besoins. Je dois rechercher mes rêves, mes passions, mes envies, ce que je n'aime pas. Et le message de la société aujourd'hui, il me place au centre de ma vie, en lieu et place de la croix de Christ. Et donc ça a des impacts phénoménaux. Ça a des impacts dans nos couples. Pourquoi ? Parce que si dans mon couple, je ne cherche qu'à me remplir moi, et si je considère Véronique uniquement comme l'outil qui va remplir mes propres besoins, mais je cours à la catastrophe. Si je ne considère pas qu'en plus de ça, je dois aussi m'engager en retour envers elle et à remplir tous ses réservoirs, nous courons à notre catastrophe. Et ce message de l'individualisme, il est destructeur. Et on le voit partout, on le voit même dans notre théologie, même dans notre doctrine. Combien de fois on a chanté « Oh, je suis une créature merveilleuse, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci parce que tu m'as sauvé, tu es venu me chercher. Tu m'as redonné une espérance, tu m'as redonné de la valeur, tu m'as redonné de la dignité. Tu m'as, moi, je. » Et c'est pas faux, c'est vrai. Mais si cette proclamation-là, elle ne me fait pas me tourner vers Dieu et dire « Mais waouh, Seigneur, mais combien tu es merveilleux, magnifique, combien tu réponds à tous mes besoins, combien tu es au-delà de toute pensée, de toute comparaison, à toi toute la gloire, que dans ma bouche s'ouvre une louange que jamais ne tarisse. » L'individualisme fait que je vais m'arrêter à la première étape et que je vais regarder ce que Dieu fait pour moi. Et que je ne vais pas, en retour, m'engager à proclamer ce qu'il est et à lui rendre toute gloire. Parce que c'est bien de ça qu'il est question. Il n'est pas question de mon nombril, il est question de lui. Il n'est pas question de mon salut, il est question de sa gloire. Et si j'ai été sauvé, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Donc vous voyez l'individualisme, le message aujourd'hui de la société, à quel point il nous modèle et à quel point il est vicieux parce qu'il ramène les choses à nous et parce que dans notre cœur, il met notre image au lieu de mettre celle de la croix. Et la Bible, elle dit clairement, clairement l'inverse. À la création entre l'homme et la femme, la Bible dit « L'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront ensemble une seule chair. » Hein, dans Genèse, c'est ce qui est écrit. Et c'est exactement cette même image qui est reprise par Paul quand il dit « Nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes un seul corps ensemble. » Et c'est pour ça aussi que je fais ce parallèle tout à l'heure en disant « Mais ce message-là, il n'est pas réservé qu'au couple. Ce message-là, il est réservé à nous tous qui sommes en relation les uns avec les autres. » Parce que oui, ensemble, nous formons un seul corps par l'union avec Christ. Nous sommes membres les uns des autres. Alors non, l'individualisme est un mensonge. Nous n'avons pas été créés individuels. Même à la création, il est dit « Homme et femme, il les créa. Faisons l'homme à notre image. Homme et femme, il les créa ensemble, en relation. » Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le salut, je voudrais juste vous projeter ce verset-là d'Éphésiens. Alors, on pourrait lire Éphésiens 1 en entier, mais je me suis arrêté juste sur ce passage-là. Éphésiens 1, 13 et 14. « En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. » Donc tout est question de moi, hein, là. « Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. » Tout n'aboutit pas à mon salut. Tout n'aboutit pas à ma sanctification. Tout n'aboutit pas à mon bonheur, à ma prospérité, à mes dons, à tout ce que vous voulez. Tout aboutit à sa gloire, tout aboutit à célébrer sa gloire. Et on disait tout à l'heure que la référence de nos couples, c'est ce plan du salut de l'humanité qui n'est qu'un mariage finalement, hein, la relation et l'engagement réciproque entre Dieu et l'homme. Alors est-ce que je peux dire dans mon couple que tout aboutit à célébrer la gloire de mon épouse ? Tout aboutit à son bonheur ? Tout aboutit à ce qu'elle s'épanouisse, à ce qu'elle grandisse, à ce que je l'élève, à ce qu'elle ait du plaisir, à ce que ses réservoirs soient pleins. Ou est-ce que tout aboutit à mon bonheur, à mes réservoirs pleins? Paul, il dit, offrez vos corps en sacrifice les uns pour les autres. Donnez votre vie pour vos frères. Parce qu'il n'est pas question d'individualisme. Il est question du fait que nous sommes en relation les uns avec les autres. Et ces promesses de l'individualisme qui nous parlent d'un bonheur plus grand parce qu'on s'intéresse à nos besoins, il est complètement faux. Parce que la Bible, elle dit une chose, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et que mon bonheur, il va croître quand je vais m'occuper du bonheur de l'autre. Et que quand je vais donner, eh bien on va me donner en retour. Et quand Dieu s'engage, il y a un engagement en retour. C'est toujours cette dynamique, vous avez remarqué, de l'engagement. Et dans nos mariages, dans nos relations, engageons-nous, donnons et il nous sera donné. Remplissons les réservoirs et nos réservoirs seront remplis. Alors je voulais juste finir là-dessus. Vous interpeller sur l'individualisme, vous interpeller sur la conception du moi, vous interpeller sur la place que vous avez dans votre cœur, que j'ai dans mon cœur, et celle de Christ dans ma vie. Jésus, c'est l'époux parfait pour sa fiancée parfaite. Il nous dit que dans toute l'histoire, il prépare son église, il prépare sa fiancée à des noces, ces noces de l'agneau qu'on a chantées ce matin. Eh bien, élevons ce standard-là dans nos couples. Élevons ce standard d'un époux qui a donné sa vie pour sa fiancée. Élevons ce standard d'une fiancée qui n'a de cesse que de se préparer pour des noces qu'elle attend. Élevons ce standard dans nos couples. Élevons ce standard aussi dans nos relations et plaçons la barre plus haut parce que c'est une démonstration de la nature de Dieu en nous. Ce n'est pas juste quelque chose de théorique, ce n'est pas juste quelque chose qui va nous rendre plus heureux, c'est une démonstration que dans nos relations, Dieu habite en nous. La Bible dit que à l'amour qu'on a entre nous, le monde voit que nous appartenons à Christ. Le monde voit que nous sommes chrétiens parce qu'il y a une démonstration de la nature divine quand nous mettons en pratique le fait de faire passer l'autre avant soi, le fait de remplir le réservoir de l'autre avant les siens. Donc je voudrais vraiment vous engager à ça ce matin, m'engager moi aussi à dire mais je veux donner avant de recevoir. Et on est célibataire aujourd'hui, eh bien profitons du temps qu'on a. Profitons d'avoir du temps pour investir et pour faire ce qu'un père de famille ne peut pas faire. Et vous êtes marié aujourd'hui, jouissez de votre mariage. Et le temps qui reste, investissez-le, consacrez-le à l'Église et non pas à vos propres besoins. Quand je dis à l'Église, c'est à Dieu. Ce n'est pas à la communauté. Bâtissons des couples solides. Bâtissons des relations qui démontrent qu'il y a un autre royaume qui arrive. Et démontrons au monde que l'individualisme, ce n'est pas la réponse. Et c'est quelque chose de complètement faux. Et dans toutes ces choses-là, surtout, qu'à Dieu soit toute la gloire. Qu'à lui seul soit la gloire. Et c'est le même principe. Quand on va s'occuper de sa gloire, il va s'occuper de remplir nos réservoirs. C'est exactement le même principe. Alors que je m'occupe de lui, il s'occupe de nous. Amen, vous êtes d'accord avec ça ? Alors j'aimerais finir en priant, je vais vous demander de vous lever et puis je vais vous bénir. Et j'aimerais juste aussi dire que s'il y en a qui ont été interpellés par ces réservoirs, il y en a qui ont été interpellés par où en est mon couple aujourd'hui, comment envisager mon futur couple. Voilà, si vous avez été remué sur ces sujets-là, il y a des couples dans l'Église qui sont solides, qui peuvent vous aider, qui peuvent nous aider à avancer. Et je pense notamment à Henri et Aline Bastian. N'hésitez absolument pas à aller vers ces gens-là. N'hésitez pas à aller vers un des couples d'anciens. Ne restez pas seul face à ces questions-là. Ne restez pas seul. Il y a tellement à découvrir, il y a tellement à bâtir dans nos couples que ce serait dommage qu'on restreigne finalement ces sujets-là en n'allant pas s'ouvrir à d'autres. Amen. Merci Jésus pour ce que tu as accompli pour nous. Merci Père de t'être engagé au point de te séparer de ton propre fils juste pour nous, juste pour excuser notre faute, juste pour retrouver une relation avec nous dans laquelle tu es glorifié Seigneur. Merci. Merci Jésus de nous avoir montré cet époux parfait. Merci de nous rappeler que nous sommes ta fiancée parfaite, que tu prépares, que tu encourages, que tu fais grandir, Seigneur. Oui, nous voulons placer les besoins de l'autre avant nos propres besoins, Seigneur. Nous voulons te placer en priorité dans nos vies avant nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons comprendre ce principe, Seigneur, qu'il y a plus de bonheur dans le fait de donner que de recevoir, Seigneur. Et que dans notre temps, que dans nos relations, que dans nos couples, Seigneur, ce principe-là qui va à l'encontre de l'individualisme du monde, Seigneur, il porte du fruit, Seigneur. Et je veux bénir, Seigneur, toutes ces personnes debout maintenant, Seigneur, et je les bénis en ton nom, Seigneur. Je bénis les couples, je bénis les personnes célibataires, Seigneur. Je bénis les veufs, je bénis les divorcés, je bénis ceux qui sont fiancés, Seigneur. Merci pour ces plans parfaits que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu dis que tu as des plans faits d'espérance, Père. Oh, merci de les mener à terme, Seigneur, et d'ouvrir des portes dans chacune de nos vies, Seigneur, pour nous donner de réaliser qu'est-ce que tu veux faire encore avec nous, Seigneur. Alors que nous nous occupons de te mettre en priorité, Seigneur, merci pour les fruits que tu multiplies dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.